Sauf que vous et moi, il faudrait qu'on tombe d'accord sur quelque chose. Il n'y a plus de place ici. Vous ne voyez pas qu'il n'y a plus de place. Même quand on ne veut pas voir, les événements nous obligent à
voir.
Voilà. Il faut qu'on parle d'ici. Il n'y a plus de place. Le site n'a pas la capacité. Si on a justement 50 personnes, d'abord il y a un peu assez de chaises, j'ai vu certaines personnes qui réfléchissaient debout. Et il n'y a plus de place pour encaisser tout le monde parce que l'œuvre du Seigneur est en train de grandir. Donc c'est une usance commune. La semaine prochaine et sur la prochaine, on va organiser des quêtes spéciales pour continuer en termes de construction. Parce qu'il faut absolument que non seulement on ait un terrain pour le premier site qui soit passé d'accès, mais rapidement, en attendant d'implanter les fondations et tout ce qui va avec, que l'on ait un espace qui peut encaisser au moins 500 personnes au premier virage, au moins pour un début. Parce qu'actuellement, on a plus de 300 personnes sur ce site. Si on veut construire, on va construire d'abord pour 400. Il faut un espace qui peut prendre au minimum 500 en phase de transitoire, le temps qu'on passe à 1000. Même si je ne sais pas d'où vous venez, je suis content de vous voir. Ça, pas pour vous être. Parce que personne ne vient à la présence du Seigneur sans avoir été invité. Vous êtes là parce que vous êtes béni. Vous êtes là parce que le Seigneur vous a invité. Effectivement, nous avions posé l'éducative hier. Il y en a qui ne sont pas venus. Je ne leur en veux pas. Parce que Dieu, à cause de la miséricorde, donne toujours la possibilité de se racheter. Surtout que l'école avec Dieu n'est pas une école facile. Il faut bien que quelqu'un vous dise pour que vous sachiez. J'étais tout à fait touché tout à l'heure de voir Aurélien parler avec son cœur. Je pourrais résumer tout ce qu'il a dit à une phrase que, ouais, comment ils ont fait pour ne pas être là? C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Effectivement, hier, pendant que nous étions en train de travailler, les plus ont opéré des miracles. Il y a des femmes qui ont reçu des bébés, d'autres personnes qui ont reçu des mariages, il y a des délivrances qui se sont opérées là financièrement. Et c'est un principe. Vous avez entendu un étranger vous dire déjà ici que lorsqu'un prophète enseigne quelque part, automatiquement les prix sont opérés. Les grâces, les miracles, les bénédictions, tout ça descend. Donc, il faut qu'on tombe d'accord. Aujourd'hui, parce que le Seigneur m'a montré quelque chose d'extraordinaire, ça. Après 2 ou 3 jours, il m'a montré comment je vais faire les bénédictions sur vous. Si c'est ce que le Père me montre, je vous dis comment il m'a montré ça. D'abord, ça descendait sur moi en flot abondant. Après, j'ai commencé à partager d'abord à mes enfants qui sont les plus proches. Mais pendant que je partage à mes enfants, je vois comment ça se distribue sur vous en flot abondant. Comme vous dites, souvent, quelle image! Quelle image! C'était une image glorieuse, fabuleuse, c'était waouh! Je suis revers le sourire jusqu'aux oreilles. Je suis juste un peu endormi parce que je lisais. Ça arrive parfois que je travaille beaucoup la nuit. Et il m'a balancé cette image-là. Comme il m'a montré ça, ça fait quelque temps, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici, les trucs-là, les indiqués vont tomber en terre. Je voyais comment ça se fait une autre image. Comment je baptisais beaucoup d'enfants. Comment on a fait les prophéties là pour septembre 2017. Donc, ce sera en septembre 2017 que tu seras les enfants ici à moi. Entre les pères des jumeaux, les pères des jumeaux, les mères des garçons, les mères des filles. Chaque fois que vous venez ici, soyez heureux d'être arrivé. Soyez heureux parce que jamais, jamais, personne ne vient à la présence de Dieu et repart comme il est.
Amen.
Personne. Aujourd'hui, pour engager un test ou un matin, aujourd'hui, pour engager cette phase que le Seigneur m'a montré, nous avons une conférence de presse. La conférence de presse de mercredi, effectivement, on va avoir des médias de plusieurs niveaux, de tous types qui vont être sur le site. La conférence de presse, à cause des usages qui sont liés à cela au Cameroun, va nous coûter quand même cher. Et le ministère a des caisses verrouillées par secteur, c'est-à-dire que vous n'avez pas les cotisations pour ceci, cotisations pour ça. On n'a pas de cotisation pour contrôler les prêts, il n'y a pas de prendre ça. Donc, autant mieux faire comme on le fait normalement, j'en profite pour bénir les personnes qui vont contribuer. Pourquoi? Ce sera une semence. Vous comprenez la différence entre offrande, dîme et semence. L'avantage avec la semence, c'est que quand vous voulez donner une semence, vous demandez à votre Dieu dans le cœur ce qu'il peut faire, il veut faire pour vous par rapport à cette semence-là. Ça peut être pour son enfant, pour son mari, pour sa soeur, pour sa femme, etc., etc. Donc, après les offrandes-là, il y aura la semence pour la conférence de presse pour qu'on ne se mette pas à réfléchir. Et je vais bénir toutes les personnes. D'abord, après avoir béni les offrandes et les dîmes, je vais bénir les personnes qui viendront pour la semence. Et j'espère que personne ne sera frappé parce que parfois, il arrive ici et c'est là où l'esprit fait une descente sur eux. Bon, on ne connaît pas les programmes là en avant. Hein. On passe à une situation qu'on découvre seulement que c'est tout. Le Seigneur dit que, Mais moi, je suis pas surpris comme vous, non. Je crois que eux, qui m'a dit. Alors, depuis 3-4 semaines, on a dit, on va tester de vous donner du lait ou de l'eau. C'est spirituellement, vous allez commencer à manger de la nourriture ou à vivre. C'est quand on commence à croquer des beignets, du pain. Macabo rouge, macabo blanc plantain, longue nu. On va augmenter le niveau et ça fait 15 jours que ça se trouve en train de mordre dans le tendon. Même la base de tout. On a commencé à vous parler de Jésus-Christ. Vous savez, cet enseignement-là, nous étions à Yaoundé. On a dit que nous étions à Yaoundé, non? Vous avez remarqué qu'il était aussi à Yaoundé, non? Parce que comme il n'est pas le don du dit, tu ne pourrais pas être ici et à Yaoundé en même temps. Il n'est pas encore la capacité là. On ne sait jamais, Dieu peut fabriquer ce genre de possibilités. Avec Dieu, tout est possible. À Yaoundé, l'enseignement que vous avez reçu ici, sur le fait que Jésus-Christ voit Dieu. Mais, de quand même, tous mes enfants là-bas, on leur dit que Jésus-Christ c'est Dieu, il parle tout ce côté, il regarde. Mais quand elle est obligée d'insérer l'enseignement le lendemain, parce que c'est le prophète Jésus qui m'a invité, Jésus Samabou, derrière là-bas, elle parle du pouvoir de la femme en version contractée, parce que j'aime les meilleures versions pour vous. Amen. Voilà, là-bas, les gars ici.
D'abord.
Laisse une version contractée là-bas. Par là, je passe en disant que oui, parce que Jésus qui s'est dit, je crois que tout le monde est allé pour faire, le gars. Les gens qui savent pas que Jésus-Christ est Dieu, ils pensent que Jésus-Christ est qui? Le lendemain, j'ai viré l'enseignement que Jésus-Christ est Dieu. Cet enseignement est fondamental. Comment les gens peuvent vouloir avoir des guérisons s'ils ne croient pas en Jésus-Christ? Avoir des délivrances s'ils ne croient pas en Jésus-Christ? Recevoir des grâces s'ils ne croient pas en Jésus-Christ? Ils croient en qui? En tant que chrétien. On a fait cet enseignement. On a dit que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Après, quand on va parler de la relation entre la foi en Christ et la grâce, je vois que tout le monde est parti d'ici rayonnant à cause de cet enseignement. La semaine dernière, le pasteur Christian Kansi nous a donné un enseignement succulent. Il y a eu les échos jusqu'à hier. Dieu n'aime à rien dire, mais les échos m'ont tout dit. Sur le thème qui es-tu? Revenons sur le couloir que nous avons pris. C'est celui lié à Jésus-Christ. Parce qu'il vous faut voir des fondations solides. Nous avons dit dans l'un des enseignements que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et l'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement assez particulier. Parce qu'il a pour thème
Jésus-Christ et le Christ.
Alors, parler de Jésus-Christ et le Christ, hein, c'est quelque chose d'assez particulier. Pourquoi? La foi en Christ ne vaut rien si on n'a pas réalisé la relation à l'Esprit Saint. La foi en Christ ne vaut rien si on n'a pas compris comment l'Esprit Saint fonctionne. La foi en Christ ne vaut rien si on n'a pas réalisé le rôle de l'Esprit Saint dans la relation à Jésus-Christ. Il y a des gens beaux ici aujourd'hui. Hein. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'a constaté. Alain Kuntoum, tu te crois souvent. Il y en a comme ça. Bon, je ne veux pas provoquer une date, mais je pense qu'elle est très beau aujourd'hui. Soyez bénis. Alors, il est extrêmement important de comprendre ce paramètre. La relation entre Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Et comment la relation entre Dieu et l'homme se fait à travers l'Esprit Saint. On a dit que vous allez apprendre à mâcher la nourriture pour adultes. Même si pour aujourd'hui, ça ressemble au miel. Jésus-Christ n'arrive pas par hasard. Tous les prophètes qui ont réagi, quand vous regardez l'histoire des prophètes, ont toujours été annoncés. Jésus-Christ aussi, dans cette lignée, a été annoncé. Depuis l'Ancien Testament, on a des textes qui annoncent que Jésus-Christ arrive, que le Messie arrive. Et ce sont les textes d'Ésaïe. Ésaïe 11, de 2 à 5, Ésaïe 61, de 1 à 3, qui annonce l'arrivée du Messie et qui donne même les caractéristiques de ce Messie. Il est important, il est extrêmement important de comprendre cela pour avoir un fil conducteur. Je ne veux pas courir parce que vraiment, je vais être sûr qu'avant que la nourriture descende dans l'estomac, elle a été bien mastiquée au niveau de la bouche. Sinon, il y aura un problème de digestion d'une manière ou d'une autre. Et s'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé Ésaïe 11, le verset 2 à 5, et un autre qui soit prêt pour Ésaïe 61, le verset 1 à 3. On commence par là. Ça ne vient pas de nulle part quand on parle de Jésus-Christ. Il y a une logique, il y a un historique, il y a une annonce solennelle. Oui, ma fille.
Ésaïe 11, verset 2 à 5, il est écrit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui.
Mm-hmm.
Esprit de sagesse et d'intelligence.
Mm-hmm.
Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un ou dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité la ceinture de ses reins.
Vous entendez comment Ésaïe décrit Jésus-Christ, l'une des descriptions. La deuxième description qui annonce le Christ, le Messie, est dans Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Quelqu'un d'autre a trouvé? Donnez-lui le micro.
Il y a une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés.
Il faut commencer à 1.
Merci du Seigneur. L'Éternel est sur moi.
Oui.
Car l'Éternel m'a besoin pour porter de bonnes nouvelles pour ma vie. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur de Dieu. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
C'est Jésus-Christ qui parle depuis l'Ancien Testament.
Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la chambre, un lieu de joie au lieu du deuil. Un vêtement de moi au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les accueille, les leur rôle de la justice, juste l'intention de l'Éternel pour se réjouir à sa gloire.
Alléluia. Première chose, Jésus Christ est décrit. Deuxième chose, sa mission est décrite. Depuis l'Ancien Testament. Troisième élément, quand le Christ lit la Bible, il confirme la prophétie sur lui en lisant ce passage-là. Ésaïe 61, de 1 à 3, et il dit, là tu le sens, tandis que les uns et les autres étaient introduits, que cette parole est accomplie. C'est pourquoi vous retrouvez cette référence dans Luc 4, de 18 à 21, à laquelle Jésus-Christ lit le passage que vous venez de voir, et il dit que cette parole est accomplie, parce que lui, qui lit, c'est lui qu'on attendait, Jésus-Christ, le Messie. Alors, qui est Jésus-Christ? Parce qu'il faudrait comprendre quand on admet que Jésus-Christ est le Messie, il faudrait comprendre quelle est sa place, quel est son rang, qu'est-ce que la parole nous permet de comprendre autour de lui. Nous avons été d'accord ici sur le fait que quand on lit Jean 1, le verset 1 à 4, il est écrit au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Et nous continuons dans Jean. Un autre verset où on dit la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Plus loin, elle est la lumière du monde, la lumière des hommes. Il y a des gens qui n'ont pas reçu cet enseignement, et c'est normal, on ne peut pas tout savoir d'un coup. Il fallait bien qu'un homme de Dieu s'occupe de ce dossier. Et il y en a plusieurs qui s'en occupent. La parole était au commencement. Jésus-Christ est Dieu, donc il n'a pas été créé. Tout a été créé par la parole, par qui? Par Jésus-Christ. Elle s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. De qui s'agit-il? C'est Jésus-Christ. C'est un pôle qui n'est pas toujours disponible. C'est pourquoi beaucoup de gens chrétiens, entre guillemets, se laissent à comparer Jésus-Christ à Bouddha, à Mohammed, à Christina, ou je ne sais pas encore quoi. Quelle maladresse, quelle catastrophe. Dans vos propres fondations, n'étant pas solides, l'autre peut venir vous persister avec de la philosophie et des faux raisonnements qui n'ont rien à voir avec Dieu. Je passe. Si on est déjà tombé d'accord sur ce préalable, parce que je ne reviendrai pas là-dessus. Il y en a qui rient parce qu'ils disent que c'est telle vérité. Excusez-moi, mais comme ça, ça sort d'abord. On réfléchit à ça. Oui, dites ça comme vous voulez, un monde contemporain, mais ça sort comme ça sort. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Jésus-Christ n'est comparable à personne. Parce qu'il est Dieu. C'est une confusion insoutenable et inadmissible pour quelqu'un qui dit qu'il est chrétien d'aller comparer Jésus-Christ à quelqu'un. À un prophète. À un autre prophète. Et puis, même quand on dit souvent que Jésus-Christ est prophète, ça me dérange un peu. Parce que c'est insuffisant comme démonstration. C'est parce qu'il y a ce côté humain de lui que moi, personnellement, j'accepte qu'on accepte, qu'on l'appelle prophète, entre autres, entre guillemets. Parce que c'est Dieu fait homme. Bien. L'autre réalité quand on veut parler de qui est Jésus-Christ, première caractéristique, inégalable, inimitable, c'est un précédent qui n'a jamais eu de suite. Conçu de l'Esprit Saint. Qui d'autre est conçu de l'Esprit Saint en dehors de Jésus-Christ? Vous avez entendu qu'il y a eu une recette comme ça en ce temps. Ni avant, ni après. Alors, conçu de l'Esprit Saint. La Vierge Marie est tombée enceinte. Physiquement. Et oui, elle est tombée enceinte après une annonce de Gabriel, qui est bien sûr le responsable de la messagerie, l'archange Gabriel, qui est venu lui annoncer. C'est un cas unique dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a même jamais eu lieu avant, et on n'a plus jamais eu lieu ça après. Première caractéristique de Jésus-Christ, il a été conçu par l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il y a une semence divine, dès le départ. Il est de la Vierge Marie. Matthieu 1, 18, 23. Luc 1, 27. Les deux références. C'est une conception miraculeuse. Ce qui veut dire qu'il est exempt de tout péché. Dès sa conception. Il y en a qui peuvent nous lire ça, peut-être parce que ça leur ferait du bien. Matthieu 1, 18, 23, les deux références à 18 et 23, pas de 18 à 23, je dis 18 et 23, Luc 1, 27,
Matthieu 1, 18, je le lis.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, avant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils vivent habiter ensemble. 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Emmanuel, Dieu avec nous. Ça complète ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous continuons. Depuis que Jésus-Christ a été baptisé, vous connaissez un autre baptême où quelqu'un a reçu le baptême et l'Esprit Saint s'est matérialisé pour dire que, ici là, c'est mon fils. Jamais. Deuxième caractéristique. Il est rempli de l'Esprit Saint le jour de son baptême. Un fait sans précédent, aussi doux et amusant que cela soit, cela ne doit pas échapper à un chrétien. Il est rempli de l'Esprit Saint. Et cette référence, on les trouve dans Matthieu 3, le 16 à 17, Luc 3, 21 à 22. Au moment du baptême, parce que quoi? Il y a une logique dans l'évolution traditionnelle de l'Église. Les anciens ont leur place. Malgré le rang exceptionnel de Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste qui doit le baptiser. C'est Jean-Baptiste qui doit baptiser Jésus-Christ à cause de la préférence en tant qu'ancien. Et il joue son rôle. Il baptise Jésus-Christ. Mais au moment où il baptise Jésus-Christ, le ciel s'ouvre. Les écrits sont clairs. Quelqu'un a retrouvé ça, on peut avancer. Qui? Donnez-lui le micro.
Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, je lis. Dès que Jésus eut baptisé, il sortit de l'eau. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici le feu s'ouvrit. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Une colombe descendue du ciel. On va y faire sortir ou d'un arbre voisin. Il faut souvent qu'on tombe d'accord sur des choses élémentaires. On cause, non? Il faut faire bien attention. Parce que ce sont les petits détails comme ça qui servent pour comprendre la place de Jésus-Christ dans votre foi et dans la relation à Dieu. Et il faut comprendre l'expression pour pouvoir défendre votre foi. Quand Jésus-Christ, votre foi est guidée de son contenu. Quand Jésus-Christ, votre foi n'a pas de valeur. Quand Jésus-Christ, votre accès à Dieu n'a pas de valeur. Quand Jésus-Christ, il n'y a pas d'accès à Dieu. C'est pourquoi il faut comprendre avec les personnes, identifier qui est Jésus-Christ, pourquoi miser sur Jésus-Christ, comment miser sur Jésus-Christ. On est en pleine ingénierie spirituelle. La Jésus-Christ a justement dansé ici. Et on va vous faire les prophéties, les gens seront contents. Après, les prophéties vont caler en suspension, ça ne descend pas parce qu'elles ont oublié que c'est Jésus-Christ qui est pour compter. Mais c'est vrai, comment la prophétie va s'exprimer? Descendre dans ta vie et se matérialiser, tu ne sais pas sur qui tu t'appuies. Quand tu as voulu se matérialiser, le Seigneur va te regarder en disant que, ça tu me connais. C'est un problème de fond, de votre relation intime avec Dieu. Parce que quand on vous dit que la relation à Dieu est personnelle, il faut comprendre qu'elle est intime. Elle est intime par rapport à votre niveau de conviction, par rapport à la perception que vous avez de Dieu, par rapport au rapport que vous avez à Dieu, par rapport à la compréhension que vous avez de Dieu. Par rapport à l'appropriation que vous faites de Dieu. Et quand il s'agit de ce Dieu, il s'agit de Jésus-Christ. On évolue. Je ne veux pas courir. Je veux être sûr que c'est bien marché. Avant que ça traverse vers l'estomac. Lorsqu'on a cette référence-là, Luc 3, 21 à 22 dit la même chose. On commence déjà à comprendre qui est Jésus-Christ. en termes de référence, en termes de repère. Mais en fait, on peut avoir autre chose. Je ne vais pas revenir sur Jean 1. Je l'ai déjà expliqué. 1 Timothée 2, le verset 5. Que dit 1 Timothée 2, le verset 5? Cherchez 1 Timothée 2, le verset 5. Vous devez avoir des repères solides par rapport à Jésus-Christ. Parce que cette foi ne sert à rien si ces repères ne sont pas solides.
1 Timothée 2, verset 5, il est écrit.
Oui.
Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes.
Il y a un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes.
Jésus-Christ, l'homme.
Jésus-Christ,
homme.
Oui. C'est moi qui ai écrit ça.
J'ai compris comment.
C'est pas dans votre Bible.
C'est dans votre Bible.
J'ai dit 1 Timothée 2, le verset 5.
Oui.
Lis jusqu'au bout du verset 5.
C'est fini, papa.
Si c'est fini, assois-toi, ma fille. Sois bien. Il faut répondre à cette question de façon claire pour que votre confort en marche avec Dieu soit assuré. Nous avons répondu, n'est-ce pas, de façon sommaire et rapide à la question de savoir qui est Jésus-Christ. Donc, on peut évoluer. Un arbre ne peut pas faire le feuille. Qui est un conducteur dans cette affaire? Qui est logique dans cette affaire? Qui est lié pour annoncer l'arrivée de Jésus-Christ? Jean-Baptiste. Avant Jean-Baptiste, Esaïe annonce Jésus-Christ. Esaïe. Ensuite Jean-Baptiste. Que dit Jean-Baptiste sur Jésus-Christ? Lui qui est né pour préparer le chemin. Matthieu 3, 11. Marc 1, 8. Et Jean 1, 33. Matthieu 3, 11. Marc 1, 8. Et Jean 1, 33.
Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance.
Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener où?
À la repentance.
À la repentance. Parce que pour recevoir Christ, il faut se... S'il y en a qui veulent les délivrances, ils ne font pas la repentance. La délivrance va passer par où? Tu as fermé la porte. Oui.
Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi.
Celui qui vient après moi est plus puissant que moi et...
Et je ne suis pas digne de porter ses souliers.
Je ne suis pas digne de porter ses souliers.
Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu.
Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean-Baptiste baptisait d'eau. Jésus-Christ vient et il baptise du Saint-Esprit et du feu. Comme vous dites souvent, en partant, vous voulez faire des autres, qui a rien. Et il est très important de fermer ça. Marc 1, 8. Et Jean 1, 33, continuons. Jean-Baptiste précise quelque chose qu'on n'avait pas vu dans Esaïe et montre un élément, une formule, un changement, une innovation, une évolution dans le baptême. Une révolution même dans le baptême. Celui qui vient après moi baptisera du Saint-Esprit et du feu. J'ai donné des passages. Quelqu'un les a retrouvés?
Marc 1, 8. Il est écrit. Moi, je vous ai baptisé d'eau.
Lui.
Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit.
Amen. On va passer. Vous gardez les références. Parce que vous devez rester libre chez vous. Pour vous nourrir vous-même. Jean 1, 33. Jésus-Christ lui-même vient confirmer. Quand vous avez acte 1, 5, acte 11, 16, il vient lui-même confirmer que lui baptise du Saint-Esprit et de feu. À travers acte 1, 5, acte 11, 16. Nous n'allons pas lire cela. Mais il fait mieux que ça. Il promet donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que quand on regarde le cadre dans lequel Jésus-Christ promet le Saint-Esprit, c'est en condition. Vous allez lire la parole, vous allez voir toute la bonté, tout l'amour, toute la disponibilité que Jésus a voulu du Saint-Esprit. Il a voulu que l'Esprit de Dieu, qui appelle encore consolateur, soit disponible sans condition. Il suffit seulement de chercher Dieu de tout ton être. Dès que tu cherches Dieu de tout ton être, Dieu te montre comment il te montre le Saint-Esprit s'offre à toi. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc 11, verset 13? Pour que vous compreniez, l'esprit même avec lequel la promesse est faite. Luc 11, verset 13. Et pendant que vous êtes en train de lire Luc 11, verset 13, nous sommes d'autres de part acte 2, le verset 4.
Luc 11, verset 13. Si donc, laissant comme boulette, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à quoi bien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.
Si vous recevez le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Si vous recevez l'Esprit de Dieu, c'est que vous avez reçu tout. Vous allez avoir les petits calculs comme certains qui viennent souvent ici. Ils font les calculs, ils ont les règles, les ordinateurs, les équerres. Ils viennent calculer les choses sur Dieu. Donc ils ont leurs objectifs et Dieu est un instrument pour atteindre la cible. Je vais monter sur l'arbre là. Comment je sais? Ah, il faut que j'utilise Dieu pour monter sur l'arbre. Dis à ton voisin que erreur. Dis-lui que erreur. On n'utilise pas Dieu. Dis ça à ton voisin, on n'utilise pas Dieu. On s'aligne dans le plan de Dieu. Et on reçoit le bonheur grâce à cela. Quand il dit à quelqu'un de parler aux voisins, ils sont timides. Il faut voir la chose dans la profondeur. Il faut comprendre l'esprit de cette démarche. Et il faut cerner les enjeux. Le véritable enjeu dans tout ce que nous sommes en train de dire, c'est votre épanouissement. Au niveau matériel, on peut l'appeler comme ça, épanouissement. Votre bonheur, votre bien-être. Et en vérité, c'est votre salut. Quand vous retenez, vous regardez la racine grecque de salut. Salut veut dire délivrance. On m'a ici expliqué dans l'enseignement précédent, il y a deux semaines, que pour naître de nouveau, et c'est important qu'on revienne là-dessus, pour naître de nouveau, il faut recevoir Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ et l'accepter comme étant votre Seigneur sauveur, comme étant votre Seigneur et sauveur personnel. Cependant, dit Dieu, si vous êtes arrêté seulement à recevoir Jésus-Christ et l'accepter comme votre sauveur et Seigneur personnel, sans persévérance, vous allez retomber dans le flou et vous enfoncer à pic jusqu'au fond là-bas, dans les abysses de l'ignorance et des ténèbres. On reçoit Jésus-Christ, on l'accepte comme Seigneur et sauveur, c'est pas naître de nouveau. On reçoit un baptême de feu et d'Esprit Saint. Mais les enfants qu'il faut persévérer. Il a donné plein de passages sur la persévérance dans la marche avec Dieu. Ça permet de comprendre ce qui se passe. Ça permet de comprendre ce qu'il faut faire. Mais maintenant, on est en train de revenir pour que vous preniez conscience de tous les éléments d'habillage, de fonctionnement autour. Oui, Dieu est disposé à donner l'Esprit Saint, sur l'Esprit. Mais on va donner à quelqu'un qui n'a même pas demandé. Vous avez les bébés là. Le bébé, tu lui donnes le lait s'il ne voulait pas. C'est une chose terre à terre. Elle va compliquer l'enterrement. Que chacun d'entre vous se rende compte qu'il y a quelque chose. Alors, et comme Jésus-Christ, Dieu, ne fait pas de promesses en l'air, il accomplit ses promesses. Et c'est pourquoi cette promesse a été accomplie le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte? C'est l'effusion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se donne à plusieurs personnes ce jour-là. N'est-ce pas que nous célébrons la Pentecôte? On comprend souvent ce que ça veut dire. En dehors de crier à l'église. C'est quand vous allez crier et crier. L'Esprit Saint là, il est passé à côté de vous, il est bien en vous. Il est très important que vous compreniez cela, parce que chacun d'entre nous ici présents, chacun d'entre vous qui est en train de m'écouter, et vos membres de famille que vous allez laisser, et les collègues, tout le monde peut recevoir l'Esprit Saint. Tout le monde, ça ne demande pas de faire une danse indienne d'abord, ou mafia, ou je ne sais pas encore quoi. Ça demande de comprendre quel est le pilier central de votre foi, quelle est la pierre angulaire de votre futur, quel est le fondement de votre vie. Il y a quelqu'un qui m'a étonné hier. J'étais dans un cours. Je crois qu'il est pasteur. Mais, regarde là, c'est ce que certaines personnes aiment venir me faire ici. et calcule Dieu pour avoir les enfants. Calcule. Je te calcule Dieu pour avoir le travail. Il utilise les instruments de calcul. Quelqu'un a dit ça. Mais, quand tu n'aimes pas l'église là, hein, quand on commence à dire qu'il faut prier là, 90 jours, je dois m'engueuler, c'est que docteur, 40 jours sans test, tu me suis. Mais cette histoire là que, mais je croyais qu'on m'a dit que tu viens travailler sur les miracles, mais il est quand même comme ça, c'est toi, tu ne peux pas changer. Vous prenez Dieu pour un marabout. Parce que vous n'avez pas compris l'enjeu à ce niveau. Dieu veut vous sauver en totalité, pas en partie ou bien ponctuellement, non. Il va vous sauver, vous sortir des griffes de l'ennemi et vous donner droit à un héritage. Dans cet héritage, il y a tellement de choses plus grandes que ce que vous espérez. C'est-à-dire qu'il vous donne d'abord ce que vous avez demandé. Et il vous donne des milliards de fois tout ce que vous n'avez même pas demandé.
Amen.
Je déclare au nom puissant de Dieu que l'ignorance ne va plus te déranger.
Amen.
Je déclare au nom puissant de Dieu que aujourd'hui un esprit s'en va être reçu.
Amen.
Voyez plus grand. Si le Christ est disposé à donner l'Esprit Saint gratuitement, instantanément, imaginez tout le bonheur, toute la joie, toute la délivrance que cela représente pour vous. Imaginez les possibilités du fait d'avoir l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? À quoi est-ce que vous n'aurez pas droit? On le fait les petits calculs. Tu es un enfant. Un diplôme, tu veux avoir la licence, ça fait que Dieu est utile. Hein? Mais vous riez parce que vous mirez vous-même. Je te fais un calcul que si j'obtiens le postulat, si on me nomme, oh vraiment Dieu. Donc quand tu as limité Dieu sur un seul poste, un diplôme, une voiture, un mariage. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème si tu te maries. Et après, il ne faut pas gérer le mariage là. Donc tu as un traitement avant de te louer, tu calmes pour terre. Allez, production, je suis marié, le monde n'est pas fait. J'y suis arrivé. Quel est l'entretien de la relation avec Dieu? Quel est le devenir là-dedans? Est-ce que vous voulez compter le nombre de femmes de cette planète qui ont vu comme objectif de se marier? Quand elles sont arrivées dedans, elles ont trouvé que c'est l'enfer. En sortir est devenu très compliqué. Parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre la place de Dieu dans leur vie. Elles ont fait les calculs. Les études de probabilité qui ne donnent même pas. Soyez libre de recevoir Christ entièrement et de recevoir l'Esprit Saint pleinement. Vous ne dites pas
amen. Amen.
Nous sommes là pour vous nourrir. Parce que Christ est ici pour vous nourrir. Il est donc très important à partir de là de comprendre la mission de Jésus-Christ, son rôle, la perception que lui-même a de ce qu'il a à apporter et de qui il est. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est dans la parole. On n'a pas besoin d'aller chercher. C'est dans la parole, vous avez les Bibles. Et que ces Bibles, c'est d'être des objets ornementaux dans les maisons. Lui, il a déjà dit comment certains rencontrent la Bible dans la maison. Leur rencontre avec la Bible, c'est quand ils lancent un coup d'œil, ils voient qu'il y a la poussière dessus. Et ils refoulent. Et on vit au-dessus d'un data. Eh mon fils. Même la honte d'avoir fait ça, ils n'ont pas. Ils ne lisent pas la Bible. Ne prie pas. Et ils viennent nous déranger ici qu'il faut prophétiser sur eux. Tu fais comme ça, l'ange est responsable du dossier que tu as traité. Il dit, tata, je refuse. Parce que vous n'avez pas compris. L'engagement, la participation, la contribution. Que dit Jésus-Christ sur lui-même? Et ça, c'est important de le savoir. Vous entrez dans une compréhension plus profonde de ce que nous sommes en train de voir ensemble. Parce que vous dites que vous êtes des chrétiens. Soyons donc des chrétiens. Et là, on a la compréhension de notre fondation. Jean 9, 31. Jean 11, 25. Venons d'abord ces deux passages. Jean 9, 39. 9. Jean 9, 39. Jean 11, 25. J'aimerais que le micro se balade sur ma droite. S'il vous plaît. Et tu approches le micro de tes lèvres.
Jean 9, 39.
Oui.
Venu. Oui, Jésus dit. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.
Jésus-Christ dit quoi? Il est venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient. Vous-même, vous ne pensez pas qu'il faut décoder ça? Quand vous croyez que vous voyez avec quoi? Avec les... Ça, c'est parce que vous avez dit la parole que vous virez là-bas. Vous voyez très souvent en utilisant deux choses. L'âme et le corps. Pourquoi? Vous utilisez l'âme de cette façon, de façon à ce que vous mettez là-dedans votre intelligence. Quelles sont les trois parties de l'âme? Je vous ai dit qu'il y a l'intelligence, il y a les émotions et il y a la volonté. J'utilise l'intelligence pour exprimer, expliquer ma petite compréhension de l'environnement, avec mon intelligence matérielle. J'utilise les sens. La vue fait partie des cinq sens. On est dans le corps. Et je dis que je vois. C'est pourquoi Nicodème était perturbé quand on lui parlait des êtres nouveaux. Il a dit ça, mais avec l'intelligence que je dis, hein, je vais rentrer dans le ventre de ma mère. Et tu parles de quoi? Ce sont pas des choses qu'on voit avec l'intelligence, la relation à Dieu ou bien l'Esprit Saint. Ce n'est que quand tu reçois l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, connecté à ton esprit, que lui, non seulement il nourrit ton intuition, qui est dans l'esprit. Il nourrit la communication avec l'Esprit Saint. Il nourrit ta conscience de Dieu qui est encore dans l'esprit. Et il renouvelle ton intelligence qui est dans l'âme. Applaudissements. Amen. Amen. C'est là où on commence à voir. Et par contre, je semblais voir alors qu'on était à feu. On ne voyait rien. On ne comprenait rien. Encore qu'il y a une grosse différence entre regarder et voir. Alors, que dit encore Jésus-Christ de lui-même? Jean 11, 25. Jean 11, 25. On était dans Jean, c'est pas de lui.
Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort.
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort, il est en train de s'adresser ainsi à la sœur de qui? Qui l'a ressuscité? Parce qu'elle disait, elle ne comprenait pas. C'est? Voilà. Je suis en train de tenir un propos à Marc. Il est venu 4 jours après le décès de Lazare. Après même ça, quand elle répond en disant que mais ça fait 4 jours, il commence déjà à sentir. Il lui répond, je t'ai de ta vie, que si tu crois en Dieu, tu verras ta gloire.
Amen.
Un jour, je vous donnerai un enseignement sur la fin des temps. Vous allez vous rendre compte de l'immensité de la puissance divine. Ça dépasse totalement votre entendement.
Amen.
Le jour où l'Esprit Saint me remplira de cet enseignement et me dira, va qui? Je vais vous parler de l'Apocalypse comme jamais vous avez entendu parler de l'Apocalypse. Je suis votre héritage. Parce que cet enseignement est extraordinaire. L'enseignement qui appelle à la seconde venue de Jésus-Christ. L'enseignement qui amène à se préparer à la seconde venue de Jésus-Christ. Du mariage entre l'époux et l'épouse, entre Jésus-Christ et l'Église. Parce que si vous n'êtes pas dans cette élan d'attente de Christ, d'attente permanente, vous allez être comme les vierges qui n'avaient pas assez de ville pour le... On va vous trouver dans le trou, je ne vais pas les appeler que je fais là-bas, oubliez de là-bas.
Celui qui a compris cet élan comprend que la marche avec Dieu est une affaire quotidienne. Ce n'est pas de pécher lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, samedi. Je veux le dimanche.
Je veux le confesser.
Et pas se confesser samedi à quelqu'un qui a peut-être plus de péché que lui. Et puis, il y a la dimanche, être même absent pendant qu'il est présent. Mais pendant qu'il est déjà allé dans le pensée au rendez-vous à l'hôtel, il pense à toutes les mauvaises choses qu'il faut faire juste après le culte, pas lundi. C'est-à-dire que le temps de sainteté dure au maximum 1 heure par semaine. Et on recommence. Après, on dit que vous êtes chrétien. Dieu va dire que qui t'a menti.
Qui t'a menti?
Demandez-lui au voisin qui t'a menti.
Qui t'a menti?
Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu marches avec Jésus-Christ. Tu as toutes les libertés. Tu habites le péché. Tu n'as pas le péché ailleurs. Tu habites dedans. Le péché est à la maison. Tu danses dedans. Tu fais les acrobaties dedans. Tu fais tout les retourner dedans. Après, tu dis que tu es avec Jésus-Christ. Si le péché te rencontre une fois, tu tombes, tu te lèves, on comprend encore. Maintenant, le péché habite dedans. Lundi, tu es dedans. Mardi, mercredi, lundi, vendredi, samedi. Ni une micro-confession subite. Ensuite, péché avant le culte, péché pendant le culte, péché avant le culte. Pas possible. Ah, Dieu. Comme ils s'exclament souvent, ah, j'en veux un. Est-ce que c'est le programme? Non, mais à l'ouest, souvent, quand tu ne fais pas ça, je vais faire comme ça, il dit que ça me fait, ça me fait, ça me fait. C'est même ça. On travaille où comme c'est comme ça. Hein? Oh, you. On nous a menti. Et on nous a menti, ça fait qu'il y a des gens qui vont aller en enfer, les deux pieds, ils sont seulement, ils atterrissent dans le feu. C'est quand ils sont dedans qu'ils réalisent, mais on leur a dit que non, j'ai un miséricordieux, non. Vous savez dans quel cadre Dieu est miséricordieux. Allez lire le psaume 103. Dieu n'est miséricordieux que qu'envers ceux qui écoutent ta parole et la mettent en pratique. C'est-à-dire que tu es dans l'attachement de la marche avec Christ. Tu tombes un peu, regarde, parce que tu dis que c'est mon enfant, heureusement. Je te connais. Il gosse. Et lorsque quand tu habites le péché, tu penses que tu as mis l'école de Dieu. On ne vous a pas dit la vérité. Dieu est rancunier. Ça ne vient pas de ma bouche. C'est dans la parole. Il garde la vérité. Ça ne vient pas de ma bouche. C'est dans la parole. Deutéronome a une succession de malédictions. Vers 8. De 15 à 70. Rien que les malédictions en sort. C'est Dieu qui parle là-bas. Si vous voulez savoir si Dieu est rancunier, allez lire Naoum. Le verset de la toi. Il dit qu'il garde dedans. Il est rancunier. Il est jaloux. Parce que vous voulez servir Dieu maître en même temps. C'est pas possible. Et ceux qui veulent voir jusqu'à quel point Dieu peut se venger, en dehors de ces renoms que certains ont cités là, prenez Proverbe 1. Commençons au verset 22. Allez jusqu'à 33. On m'a dit que c'est Dieu qui parle, la parole, elle dit que non, on nous a menti. Viens fort, voisin, que voisin, on t'a menti. Voisin, on va plus te mentir. Vous allez dire au voisin, voisin, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'apprendra.
Et la vérité t'apprendra.
Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 6, 35? Et Jean 10, 9. C'est toujours Jésus-Christ qui parle de lui-même. Nous allons regarder tous ces quatre passages pour vous. Concernant qu'est-ce que Jésus-Christ dit sur lui-même. Jean 6, 35. Et Jean 10, 9.
Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais. Ok.
Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Et celui qui croit en moi n'aura jamais
soif.
C'est Jésus-Christ qui parle de lui-même. Le Dieu fait homme, qui a habité parmi nous, qui est la lumière du monde, qui est la lumière des hommes.
Mais comment est-il possible d'avoir ce plein de vie si vous avez coupé la connexion avec Dieu? Comment est-il possible d'avoir ce plein de vie? Qui est l'Esprit Saint? Comment est-il possible d'avoir ce plein de vie? Qui est l'Esprit Saint si vous avez coupé la connexion avec Jésus-Christ? Qui va vous donner l'Esprit Saint? On est chrétien, sans fondation, sans connexion. L'Esprit Saint va rester là comme ça, il te regarde comme ça, il dit que l'autre là on ne se connaît pas. Il y a même plus grave, c'est un problème sérieux. Dans beaucoup de milieux qui ne sont pas charismatiques, il y a des gens qui ont la grâce de recevoir l'Esprit Saint, mais ils n'en font pas usage. Parce qu'ils ont une perception limitée de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont l'Esprit Saint, ils l'ont reçu, mais ils n'en font pas usage. Ils ont un regard très monocorde de la marche à Dieu. Ils se sont tellement habitués à la puissance de l'ennemi qu'ils ne savent pas qu'il y a la puissance de Dieu. Parce qu'il est écrit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde.
Amen.
Pourquoi voulez-vous sous-exploiter Dieu? Et où sous-exploiter Dieu? Que dit Jean 19? Priez à monsieur là, pas lui.
Jean 19.
Je n'ai pas encore retrouvé Jean 19. Quelqu'un d'autre là?
Jean 19, je suis la porte. Quelqu'un entre par moi, il sera trouvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de sa chambre.
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera
trouvé.
Il entrera, il trouvera. Le pâturage montre quoi? L'abondance, le bonheur, la prospérité, la paix, la santé et tout ce qui va avec. Les grâces de tout type. Les onctions de tous les niveaux. Quelle est la direction que Jésus-Christ nous donne? Parce que n'oubliez pas que cet enseignement traite de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Parce qu'on est en train d'aller vers la conclusion, vous devez terminer le lien. Et le lien là-dedans, comment ça fonctionne? Jésus-Christ lui-même donne une direction. Jean 6, 29, Jean 4, 34, Jean 6, 29, Jean 4, 34, quelles sont les orientations que le Christ nous donne? L'œuvre de Dieu, c'est quoi?
C'est que
croyez
en celui qui
l'a
envoyé.
Regarde encore ma fille, j'ai l'impression que les gens n'ont pas bien compris. L'œuvre de Dieu, c'est quoi?
C'est
que
croyez en celui qui l'a envoyé.
C'est-à-dire, quand Dieu vous envoie quelqu'un, vous devez croire en cette. Vous êtes sûr d'avoir compris ça? Ils ont seulement entendu, hein? Vous avez des vrais prophètes un peu partout. Et ce que vous faites très souvent, c'est exactement le contraire de ce que cette parole vient de dire. Vous comparez les personnes que Dieu a envoyées à vous-même, à vos propres stars, à vos propres retards, à vos propres infinités. Ne t'attends pas quels sont les contrats que ces personnes ont avec Dieu. Par conséquent, les gens amassent des malédictions et la malédiction des prophètes les frappe. Hier, vous n'étiez pas là, je dis par là, parce que cet enfermement est fondamental. J'ai expliqué hier, par la grâce de l'Esprit Saint, jusqu'à quel point les prophètes sont dangereux. Le prophète est dangereux d'abord parce qu'il est un réservoir d'onction. De la même manière qu'un apôtre, ce que je suis pour le Dieu éternel. Et ceux qui font la traduction, envoyé veut dire quoi? Apôtre. Vous voulez me mettre dans quelle catégorie?
Apôtres.
Dieu a premièrement établi les apôtres, c'est le plus haut rang. Ensuite les prophètes. Après les évangélistes, etc., etc. Ah, vous ne saviez pas que vous avez un apôtre. Vous disiez seulement envoyé, c'était bon à entendre. Applaudissez d'abord pour le Seigneur. faut que je vous dise la vérité. Je vous dis, l'envoyé est d'abord apôtre et il a un rang au grade au-dessus. C'est ça la vérité. Je ne suis pas qu'un apôtre. C'est le rang en et celle d'envoyé. C'est ce que ça signifie dans la compréhension que vous devriez vous en faire. C'est pourquoi je vais vous dire ça par amour. Si vous ne réalisez pas que vous avez un envoyé du Dieu créateur à votre disposition, vous allez rater les grâces en stock. Combien d'entre vous n'ont pas déjà été témoignés en disant que l'envoyé a déclaré quelque chose dans ma vie et ça s'est passé? Pourquoi vous voulez être absent de vos événements, ce que Dieu a prévu? J'ai défié un peu Dieu. Osez entrer dans une vraie relation avec Dieu. Priez comme vous demande de prier. Lisez la parole. Venez, semez, etc. Et que l'envoyé ait la grâce. Parce que le Seigneur m'a dit, ce que tu vas déclarer, je vais l'accomplir.
Amen.
Vous voyez ce que je disais. Beaucoup viennent à elle, les petites là. Tu peux avoir un enfant, tu peux guérir. Mais vous pouvez avoir tout. L'envoyé représente Dieu. La parole dit, fais mon œuvre, c'est écouter celui que j'ai envoyé. Et vous avez deux hommes, vos dieux matériels. Un homme qui est envoyé. Je ressens la joie de l'Esprit Saint à cause de cette petite révélation qui va déboucher la vie des gens.
Amen.
Qui va couvrir les portes de la prospérité.
Amen.
Que dit la parole pour le deuxième passage que j'ai donné? Jean 4, 34. Et il y a encore un Jean 4 là de 23 à 24.
Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Jésus dit quoi?
Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre.
L'envoyé fait le travail de quoi?
De
celui qui l'a envoyé. Donc l'envoyé que vous avez ici, son travail est de faire le travail de celui qui l'a
envoyé.
C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, le Dieu vivant.
Amen.
Et c'est pourquoi je vous demande souvent, où est donc votre foi? En quoi est-ce que vous croyez véritablement? En qui est-ce que vous avez mis votre confiance? N'avez-vous pas conscience du fait que Dieu marche avec vous? Je vous ai dit qu'on est en pleine ingénierie spirituelle. On a augmenté le niveau. Vous voulez en parler plus d'un SEO pour augmenter le niveau. Chaque fois que vous allez venir ici, vous allez vous enrichir seulement.
Amen.
Sois béni. Jean 4, 23 à 24, c'est ce que quelqu'un veut dire là-bas. Donnez-lui le micro.
Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
L'heure vient, mais elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en
vérité.
D'accord. Continue.
Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en
esprit
et en
vérité.
Pourquoi avez-vous besoin des choses pour prier? Non, peut-être qu'il vous faut une calvasse. Non, si c'est pas un chapelet là maintenant que nous n'avons. Je ne sais même pas la croix de Jésus qui est calé pour terre, qui est blanc, qui n'a jamais été blanc. C'est que ce n'est pas moi. Adorez Dieu en vérité et en esprit. Vous dépouillez de toutes les structures ordinaires qui vous condamnent habituellement.
Amen.
C'est pourquoi vous voyez ici, je ne combats pas les églises, les religions, ce n'est pas mon affaire. construisez votre relation avec Jésus-Christ. En investissant dans la relation avec Jésus-Christ, Jésus-Christ vous baptise du feu et de l'Esprit Saint. Il vous donne l'Esprit Saint. À partir du moment où il vous donne l'Esprit Saint, il augmente la complicité avec vous. Il crée une relation personnelle avec vous. Il commence à vous nourrir personnellement. Il arrange ses propres problèmes personnellement. Il brise vos ennemis personnellement.
Amen.
Il donne des grâces personnellement.
Amen.
Ne te raconte pas, ça te vit. Dieu voisin, ça te vit.
Voisin, ça te vit.
Dieu voisin, mon père.
Mon père personnel.
Il me nourrit maintenant.
Il
détruit mes ennemis maintenant.
Il détruit les ennemis maintenant.
Regardez comment la joie de l'Esprit Saint vous envahit. À cet instant précis, je pense à Aurélien qui pense à hier, que il n'était pas là. Maintenant, il voit seulement une partie de ce qu'il y avait hier. Ne partez pas d'ici sans acheter vos tickets pour le mariage. Comme vous ne savez pas que l'envoyé est un homme de science, et c'est une science établie par Dieu. Nous, on n'a pas de tabou. Le Seigneur, on a parlé de Marie, elle a parlé des choses dont vous avez parlé en cachette. On était en séminaire et on traitait de tout ça là.
Comment ça passe?
C'est parce qu'on vous a menti que vous croyez que Dieu a des sujets tabous. C'était de l'ignorance. Une profonde ignorance de Dieu. Quel est le sujet tabou avec Dieu? Est-ce qu'on parle par le mariage en traité de tous les dossiers de ça? Voilà! On fait tout en profondeur. On étudie tous les dossiers. Parce que dès que vous venez comme ça, vous devez être illuminé. Quand il y a la lumière quelque part, les autorités discutent avec la lumière. Donc la lumière doit être totale dans vos mariages. Aurélien, je valide ta proposition concernant le fait que si quelqu'un a été à plusieurs causeries éducatives, il a un bien gratuit. Il y a un exemple que je voulais regarder, mais on l'a déjà expliqué. Vous gardez ici la référence. Lorsque Jésus-Christ offre l'Esprit Saint à la femme samaritaine, il dit, l'eau que je vais te donner, c'est une eau vive. Si je te la donne, tu n'auras plus jamais soif. Gardez la référence, elle vous servira. C'est Jean 4, le verset 10 et le verset 14. Jean 4, verset 10 et verset 14. Nous continuons. Nous avons dit que nous sommes en train de discuter sur l'Esprit Saint, c'est un enseignement sur l'Esprit Saint, Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Le sujet central, et on va rester là-dessus pendant plusieurs semaines, c'est vraiment la foi, la marche avec Dieu, la pratique de cette foi-là. Donc vous nourrissez de façon à ce que, en quelques semaines, vous ayez une véritable effecteur. Ça va être un accélérateur de miracles dans vos vies.
Amen.
Avant même la fin de cette année 2016, les miracles seront tellement abondants dans vos vies.
Amen.
Comme vous allez être seulement la lumière dans toutes vos familles.
Amen.
Comment opère l'Esprit Saint dans la vie de Jésus-Christ? Nous allons commencer par constater que Jésus-Christ a une conception miraculeuse. Dis au voisin, voisin ne dort pas. Ça se passe ici, voisin.
Ça se passe ici.
Première chose, conception miraculeuse. Deuxième élément, manifestation de l'Esprit Saint lors de son baptême.
Troisième élément, historiquement connu et reconnu. L'Esprit Saint fortifie Jésus-Christ au désert. Et ça mérite d'être lu pour une fois. Parce que vous avez à parler de ça dans les enseignements. Que vous lisiez et que vous preniez conscience de la manière dont ce n'est pas par la chair que l'on combat, mais on combat par l'Esprit. Et cet Esprit est l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, que Jésus-Christ seul peut vous donner.
Amen.
Je voudrais une lecture posée, cohérente, de l'histoire, de l'intérêt en adoube, pour que l'on voit cette part où l'Esprit Saint soutient Jésus-Christ face à la tentation. Luc 4, le verset 1 à 12.
Luc 4, verset 1 à 12, je lis au nom de Jésus. Jésus rempli du Saint-Esprit. Le jour du Jourdain aussi conduit par l'Esprit dans le Jourdain.
Il était rempli du Saint-Esprit. Attends, arrête-toi là. Il y a des gens souvent prétentieux dans la marche, et ils ne savent pas que c'est une affaire d'ingénierie. Si vous avez reçu l'Esprit Saint, ça ne veut pas dire que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on entend, est-ce qu'on entend là? Si j'ai reçu l'Esprit Saint, ça ne veut pas dire que je suis rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on rempli du Saint-Esprit, c'est un niveau d'onction particulier. Ce n'est pas tout le monde qui a le niveau d'onction là. Et il y a encore une autre différence. Parce que ça, c'est très important. C'est pas parce que vous avez un don spirituel que vous avez l'onction. Vous entendez ce que je dis? Ce n'est pas parce que vous avez des dons spirituels que vous avez l'onction.